8h53 minutes en ce... 8h53. Un feu roulant ce matin à Rage Against le matin, boulevard 102.1. Rage, Jeff et Max avec vous jusqu'à 10h. Un petit rappel, si vous manquez une des discussions dans l'émission, si vous arrivez, je ne sais pas moi, dans votre voiture ou vous ouvrez l'application en plein milieu d'une jasette et que vous voulez connaître la suite ou ce qui s'est passé avant, vous pouvez toujours vous rendre sur le blvd.fm dans la section réécouter et parfois aussi ces jasettes-là se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Pas mal certain qu'on va avoir encore une fois une super jasette avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Il y a le projet de loi et la décision du ministre Dubé qui impose ou veut imposer les étudiants qui étudient en médecine ici au Québec de faire les 5 premières années au public. Ça fait beaucoup jaser. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact justement sur l'économie du Québec? On en jase avec Gabriel Giguère qui est au bout du fil. Bon matin, Gabriel.
Hey, bien le bonjour.
Hey Gab, ça te surprend-tu de voir qu'on veut imposer justement un 5 ans dans le public pour les étudiants en médecine au Québec?
Fait que je suis pas si surpris que ça, mais je suis déçu. Hein. Le principe de conscription des nouveaux médecins, là, je ne suis pas fan de ça, pas du tout. Parce que le Québec s'inscrit en porte-à-faux, puis je dirais le Canada plus largement également, là, mais cette réglementation-là, s'inscrit en porte-à-faux avec la tendance de l'OCDE, en quelque sorte, là, des pays de l'OCDE, qui tendent davantage vers une pratique mixte, privé et public, on y reviendra. Mais moi, ce que j'ai analysé, en fait, ma collègue, moi, on a analysé un élément qui me semble très important, et c'est la question de la réponse du Collège des médecins. Les collèges des médecins, vous savez, représentent les médecins au Québec et expliquent que, non, c'est une bonne chose, faudrait même l'annuler complètement. C'est un petit peu particulier parce que quand on lit le mémoire qui a été déposé dans le cadre de l'étude du projet de loi que vous avez nommé, ben, ce qu'on constate, c'est qu'on a une analyse partiellement bonne, hein, de dire que ben, c'est moins attractif le réseau public en santé pour les médecins. On a une lourdeur administrative, un manque de flexibilité, une basse qualité de vie. Donc ça, on comprend les problèmes, mais la solution qui est proposée est complètement, j'ai envie de dire, déconnectée avec les solutions qui sont proposées dans le monde occidental, à savoir de permettre le privé et le public. Comme ça, il y a des médecins qui vont travailler dans le public, mais qui vont aussi travailler dans le privé. Donc, souvent, ils augmentent un petit peu leurs heures de travail. Ça permet d'avoir un meilleur revenu. Ça permet surtout de soigner plus de monde, au final.
Gabriel, t'as tellement raison, parce que c'est quand même assez ironique de dire « Hey, les conditions, puis excuse-moi mon langage, sont de la merde au public, mais t'es obligé d'y aller 5 ans, mon homme. » Alors que je lisais que dans des pays comme le Pays-Bas, le Danemark, on fait justement de la mixité, et c'est des pays où l'accessibilité aux soins est meilleure qu'au Canada et au Québec.
Exactement. Puis il y a des études là, qui ont été écrites là-dessus, peer review, comme on dit, la revue par les pairs. Et donc, quand on regarde au Danemark, par exemple, on permet la pratique mixte. Et on avait peut-être une crainte aussi de dire, ben là, les médecins vont moins travailler dans le public. En réalité, les médecins travaillent autant. Les médecins travaillent plus. Donc, ils vont augmenter leur nombre d'heures au privé. Ça, ben, c'est plus de patients là qui sont soignés. On le sait à quel point on a des grandes listes d'attente au Québec. C'est de ce dont on a besoin. C'est certainement pas de dire aux jeunes médecins qui constatent que le secteur public est pas intéressant, de dire, non, t'en vas dans le public puis t'as rien à dire parce qu'on paye tes études. Est-ce qu'on va commencer à faire ça aux enseignants? Est-ce que moi, je vais aller travailler pour le gouvernement parce que je pourrais analyser des politiques publiques pendant 3 ans pour le gouvernement au lieu de faire ma job? En réalité, ça fait aucun sens. Là, ce mode de conscription-là est à revoir. Et même que je dirais, juste la pratique privée est très, très, très répandue. Même pas la pratique mixte. Là, on regarde aux Pays-Bas et dans d'autres pays, on a le droit de juste pratiquer dans le privé. Mais c'est là qu'il est important de comprendre une subtilité qui parfois est souvent taite, à savoir que le public, hein, le secteur public et le caractère universel des soins de santé, c'est 2 choses différentes. Hein? On pourrait avoir la carte soleil puis d'aller dans un hôpital privé, d'aller dans une clinique privée puis qu'on soit couvert. Ça, c'est juste conserver le caractère universel, mais en disant, écoutez, je pense que c'est assez clair à la vue des chiffres au Québec que l'aide publique n'est pas la meilleure solution pour fournir des services. À tout le moins, il ne devrait pas avoir une forme de monopole en la matière. Puis ça, ce monopole-là, il existe dans très peu de pays là, en Europe, et ça va très bien. Alors, faut arrêter de faire des fois là, de montrer l'épouvantail américain parce qu'il y a tellement de systèmes de santé différents, en incluant le secteur indépendant et qui permet de bien mieux soigner ce qu'on a ici au Québec. Là, quand on regarde le classement du Commonwealth Fund, qui est en quelque sorte un organisme qui prend les pays du Commonwealth et qui les classe, on constate que le Canada là est assez bas. Il est après Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, Nouvelle-Zélande. En fait, c'est pas juste les pays du Commonwealth, mais ça permet quand même d'avoir
un classement intéressant. Et ça, c'est tous des pays qui ont une mixité, Gabriel, que tu nous parles?
Ben, c'est exactement ça. On a tout de la mixité. Fait que quand on regarde là, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis qu'on considère que la mixité est la solution, parce que la mixité permet de soigner les patients plus rapidement. C'est très simple. Là. Si vous avez un secteur public sans concurrence, quelle est votre motivation à vous améliorer? Puis là, faut sortir un petit peu des phrases creuses en disant « oui, mais le patient d'abord ». Puis tu sais, les phrases qui sont plus politiques que concrètes. Tu sais, quand on dit « patient d'abord », puis ça fait un an que t'attends pour une opération, tu le sens pas, le patient d'abord. Tu sens que t'as le droit à une liste d'attente, mais pas à des soins de santé. Puis ça, c'est très problématique. Donc, quand on regarde également la dynamique au Québec, ben c'est 3,3 millions de personnes qui se présentent aux urgences chaque année, ou plutôt 3,3 visites aux urgences pour être plus précis. Donc, ça peut être une personne qui revient plusieurs fois, mais il y a environ 11,5% de ces visites-là qui se soldent sans être traitées. Parce que c'est trop long, parce qu'on se dit, ben non, mais ça n'a aucun sens. Puis c'est pas juste des cas, des fois, de petits rhumes, là. Tu sais, c'est des cas, des fois, qui sont durs. La temps d'attente médian, là. Donc, 50% des gens qui attendent environ 5h13 aux urgences. Donc, on est vraiment à côté de la plaque au Québec sur cette question-là, et d'aller de l'avant avec une obligation du secteur public semble être complètement contre-productif.
Oui, hey Gabriel, puis le projet de loi là, qui est proposé par le ministre et qui semble, selon lui, être une solution, ça pourrait pas avoir l'effet contraire, justement, puis ajouter au problème parce que ça viendrait peut-être décourager aux jeunes étudiants de vouloir étudier la médecine au Québec et peut-être étudier ailleurs ou même étudier autre chose?
Ben, écoute, c'est sûr que c'est un domaine qui est attractif. Là. Il n'y a pas beaucoup de place. En fait, au Québec, on a un problème où on n'a pas assez de place en médecine. On aimerait ça avoir plus de médecins qui sont formés. Donc, je ne sais pas à quel point ça va être le cas. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'après 5 ans, on se dise, là, regarde, là, je ne peux plus aller travailler au privé parce que là, on l'a entendu, le ministre de la Santé, M. Dubé, dire, moi, je veux rendre ça difficile pour les médecins de pouvoir faire le changement du public au privé. Je veux que ce soit le ministère qui approuve, que ça ne sera plus juste le médecin qui choisit. Mais là, à un moment donné, c'est quand même pas l'État qui va vous dire quoi faire. Fait qu'après le 5 ans, est-ce qu'on va voir les médecins quitter pour d'autres provinces, quitter pour aller travailler ailleurs parce que, ben, on n'a pas de liberté au Québec en la matière? C'est sûr que c'est une crainte. Puis là, quand on regarde également le nombre de médecins dans le privé, parce que c'est ça aussi, c'est quoi l'ampleur du problème? Ben, si problème il y a, évidemment, moi, je crois pas qu'il y a de problème, mais selon le ministre, ben, on a environ 22 837. Ben, c'est un peu plus précis qu'environ, là, mais 22 837 médecins actifs au Québec. Puis, en février 2025, on voyait seulement 812 médecins non participants, donc dans le secteur indépendant, ce qui équivaut à 3,5% des médecins, là. Tu sais, on changera pas la dynamique de 5h13 d'attente médian en les obligeant, ou plutôt en obligeant les autres médecins à aller travailler au public. Faut être sérieux.
Exactement.
Un peu.
Exactement. Donc, on est encore dans un faux problème, Gabriel. Hey, Gabriel, je rêve grand aujourd'hui. On parle de l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. 5 milliards pour la refaire. Le gouvernement plus d'argent, on en a parlé. Tu nous as parlé du fameux podium d'Éric Girard. On est à 13,6 milliards de déficit. Ça serait-tu mieux pour le gouvernement et le contribuable québécois de faire cet hôpital-là au privé et de venir donner une rémunération à l'acte aux médecins qui vont être à l'intérieur? Est-ce qu'on aurait des meilleurs soins de service pour l'Est de Montréal en faisant ça?
Écoute, Jeff, moi, je t'entends, puis j'ai des étoiles dans les yeux en ce moment.
Ah, je savais.
tu me dis ça, puis écoute, la CAQ, le problème en plus, c'est qu'on s'était fait dire dans la campagne électorale, inquiétez-vous pas, on le sait qu'on a besoin de concurrence, on va faire des petits hôpitaux, hein, des mini-hôpitaux
oui,
privés, donc on va s'assurer d'avoir de la concurrence.
Ça remonte loin, 2018, hein, pour la CAQ. Ah, des fois, j'oublie des bonnes idées comme ça qui se sont perdues.
Ben, il faut lire le livre de François Legault pour comprendre comment il y avait des bonnes idées au départ puis comment ça peut se dilapider rapidement. Mais l'élément des mini-hôpitaux, puis ça s'inscrit également là, dans ce que tu viens de dire avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est qu'on a besoin de plus de concurrence en santé. On le savait auparavant. On se disait, ben, ça va être un projet pilote. On va faire des mini-hôpitaux puis on va s'assurer justement que notre mammouth de secteur public de la santé puisse avoir de la concurrence pour devenir plus agile. Notamment avec la rémunération à l'acte où on pousse les gens, ou plutôt les médecins, à s'assurer de faire le plus d'actes possible, toujours dans un contexte de respect du patient, mais pour s'assurer également de réduire les listes d'attente. Ça aurait été bénéfique. Malheureusement, on a oublié ça. Puis c'est un petit peu particulier parce qu'en parallèle de ça, quand on regarde ce qui se passe au niveau du gouvernement du Québec, on nous indique que, ben là, les listes d'attente sont trop longues, donc on pourrait envoyer également des patients se faire opérer dans le secteur indépendant, dans le secteur privé. Là, tu dis, attends un peu, tu es en train de me dire que tu vas rendre ça très, très, très difficile d'aller travailler dans le secteur privé, mais en même temps, tu vas demander au secteur privé d'assurer certaines chirurgies ou des opérations.
Parler des deux côtés de la bouche, mon cher Gabriel.
Ben, j'ai l'impression que le gouvernement est assis dans un bac de sable, puis avec sa main gauche, il enlève du sable, puis la main droite, il remplit le trou qui est en train de creuser. Colin, t'avances pas avec ça, là.
Non. Hey, Gabriel, si je me trompe pas, la Top Gun là, de Santé Québec, Geneviève Biron, elle vient du privé. Elle pourrait pas souffler des mots doux à l'oreille du ministre Dubé?
Je l'espère, mais moi, tout ce que j'ai lu là dans les derniers jours sur la question, c'est qu'on a plus de fonctionnaires en santé puis que ça nous coûte plus cher. Donc, j'espère que ça va arriver, Reg, j'espère, mais en réalité, pour le moment, c'est pas ce que je vois. Ce qu'on aurait aimé voir, c'est vraiment d'un engagement clair, c'est plus qu'un engagement, là. En fait, il aurait fallu avoir la suite des paroles, c'est-à-dire les actes sur la question des hôpitaux privés. Ça veut dire, ben, c'est un premier pas dans la bonne direction. On a besoin de plus de concurrence. On a besoin du secteur indépendant. Puis, faut bien comprendre pourquoi on a besoin de ce secteur-là. C'est pas juste parce que par magie, il va bien faire les choses. C'est qu'on peut s'assurer d'une gestion plus souple. Les syndicats seront moins lourds et donc, ne serait-ce que la configuration de l'hôpital. Si vous pouvez avoir les salles, par exemple, de chirurgie plus proches de l'entrée, vous allez sauver du temps. C'est la gestion du personnel également. Donc, c'est multifactoriel, mais ça permet d'être plus efficace, efficient même, donc moins de coûts pour plus de résultats que le secteur public, qui est un mammouth, comme je l'ai dit.
Ouais.
Donc, on a besoin de cette concurrence-là. Malheureusement, au niveau de la CAQ, j'ai l'impression qu'on a perdu le Nord, on a perdu leur boussole.
Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal et un ami du show, bien évidemment. On apprécie toujours les jasettes avec toi, Gabriel. Merci pour ton temps ce matin.
Ben, c'est un plaisir de partager encore une fois.
Oui, excellente analyse. Merci, Gab. À bientôt. Gabriel Giguère.
La CAQ a perdu le Nord. Ben voyons donc.
Tu vois, c'est une belle façon de...
Elle vient de me l'apprendre.
C'est une belle façon de finir la jasette comme ça.
Yes!
Ah, ben ouais. J'ai hâte à... Je dis ça de même parce que vous savez, j'ai pas de parti pris, que ce soit au municipal, provincial ou fédéral. J'ai hâte... C'est quoi la dernière bonne nouvelle... De la CAQ,
c'est drôle parce que quand tu dis j'ai hâte, je me disais, moi aussi j'ai hâte de parler de la CAQ en bien. T'sais, j'aime ça, saluer les bons coups, peu importe le parti politique. On a salué dernièrement la visite de François Legault en Allemagne, mais encore là, il n'y a pas de retombée tangible qui se fait rapidement. Fait que la dernière décision qui a un impact vraiment significatif, je la cherche.
L'idée de ramener les pouvoirs pour nommer ces juges au Québec dont on parlait hier, moi, ouais, je trouvais ça bien brillant. L'affaire, c'est que ça donnera rien parce qu'au niveau du fédéral, déjà, Mark Carney a dit qu'il voulait rien savoir de ça, puis même les autres partis.
La Davy, ont-tu leur main dans la pâte?
Oui, la Davy, ont la main dans la pâte. Je te dirais aussi, demain, on va parler avec le ministre, puis je pense qu'avec Simon-Jolin Barrette, ça doit être la vedette de la CAQ présentement. On va parler demain aux alentours de 8h au ministre Jean-François Roberge. Lui fait un extraordinaire travail pour la protection de la langue française. Ouais. Et là, il va s'apprêter à livrer tout qu'un combat en immigration avec le gouvernement là, fédéral qui sera élu. Fait que je dirais Simon-Jolin Barrette, Jean-François Roberge, vraiment, eux prennent des excellentes décisions.
Bon, ben, j'ai hâte à demain.
Moi aussi.
Autour de 8 heures, on va jaser
et voilà,
protection de la langue française, entre autres, et immigration. Max, circulation?
Ouais, c'est un accident sur la 40 direction ouest, hauteur du Plessis, qui crée un beau parking qui remonte jusqu'à à peu près Jean Gauvin.
En musique, Sam and the Terrible News, le stéréo à Boulevard.